Bé, doncs continuem amb la segona presentació. Ara sí que entrem ja de ple en el que són a l'àmbit fluvial. La propera presentació va a càrrec de l'Aurelín Chavanon, que és tècnic de riberes dins de l'organisme SIGATEC, que és l'ingestor del riu Tec i la seva conca des de l'any 2002. Alhora és tècnic territorial i de formació inicial en gestió i en protecció d'ecosistemes naturals. Anteriorment havia estat a la Federació Departamental per la Pesca i la Protecció dels Ecosistemes Aquàtics dels Pirineus Orientals. I a la meva dreta hi ha l'Isabela Ferrés, que és la directora administrativa i tècnica del SICATEC. És la responsable d'estratègia territorial de gestió de l'aigua al territori del Tec i de l'Albera des de l'any 1998. És enginyera principal territorial amb una formació científica i tècnica i una especialització de tercer cicle en gestió transfronterera de la muntanya. Cal dir també que SIGATEC estan en vies de desenvolupar un interreg juntament amb, o ja tenen un interreg amb el Consorci del Ter. Vull dir que moltes gràcies i no sé qui comença i li passo a l'Isabel.
Puc ficar per... Sí. Doncs bon dia a tothom. Primer, disculpeu nosaltres perquè farem la nostra intervenció en francès. No parlem bastant bé el català per fer-ho en català. Doncs... moltes gràcies per la vostra comprensió i també agraïments al Ponce Feliu per la seva invitació a participar en aquesta presentació i també a l'Anna Ribes que ens va ajudar a traduir el nostre mitjà visual. Donc je vais vous présenter à une échelle totalement différente et beaucoup plus restreinte que le précédent intervenant un exemple de gestion concertée de l'eau sur un territoire. Donc il s'agit de... Il s'agit du territoire Tec Albert qui se situe à l'extrême sud de la France. Donc c'est un territoire méditerranéen. Un bassin fluvial de 750 km² environ avec près de 500 km de linéaire de cours d'eau, sans bien entendu le chevelu secondaire, qui a souhaité se structurer dès les années 90 pour mettre en place une stratégie globale de gestion de l'eau qui comporte bien entendu les aspects de gestion de la ressource, de prévention contre les inondations, mais également de tout ce qui est gestion de milieu et préservation de la biodiversité. Donc cette structure est une entité publique de coopération intercommunale qui regroupe 40 communes, c'est-à-dire la totalité du bassin hydrographique du Tec et des fleuves côtiers des Alberts. Sa mission principale est la promotion donc, et la coordination en collaboration avec les communes et les acteurs locaux de cette gestion globale de l'eau sur le territoire. Et au niveau de ses compétences statutaires, en ce qui concerne la thématique plus particulièrement aujourd'hui donc de gestion de la biodiversité et de la préservation des milieux, nous sommes compétents en matière de travaux en rivière, travaux qui doivent bien entendu intégrer toutes les problématiques de la ressource, de la prévention des inondations, de la protection des espèces et des habitats, mais également de la gestion patrimoniale des ripisylves. Donc le territoire Tec, pour ceux qui ne le connaîtraient éventuellement pas, se situe à l'extrême est de la chaîne des Pyrénées. C'est un territoire qui présente une caractéristique particulière, celle d'allier la montagne, voire la haute montagne à la mer, puisque la partie amont du bassin versant culmine à 2400 mètres au niveau du massif du Costabone. Et le Tec rejoint ensuite à 80 km plus bas la mer Méditerranée au niveau d'une réserve naturelle qui s'appelle le Mas Larieux sur la commune d'Argelès-sur-Mer. Donc bien entendu, cette variation d'altitude génère des paysages et des entités écologiques extrêmement contrastées, ce qui en fait toute la richesse. Vous pouvez voir sur ces photos qu'effectivement, on a des zones de montagne avec des torrents patrimoniaux extrêmement forts, qui sont d'ailleurs classés réservoirs biologiques, hein, au titre des différentes directives nationales et européennes. Des secteurs de gorges qui sont également marqués avec, par exemple, les gorges les plus profondes au niveau européen sur la commune de Montferré. Ensuite, une partie intermédiaire avec un fleuve qui s'assagit, bien qu'il reste quand même extrêmement torrentiel. On est sur un secteur qui est malgré tout montagneux, avec des débits qui peuvent être très importants. Par exemple, pour la crue de 1940, le Tech, qui a un module moyen à 5 mètres cubes seconde, est passé à plus de 3600 mètres cubes seconde. Donc un fleuve extrêmement torrentiel, avec une gestion hydrologique qui accuse les extrêmes, aussi bien dans l'excès avec les inondations que dans des étiages très très faibles, avec éventuellement des assecs. Et sur la partie aval, donc un fleuve qui s'élargit, qui a tendance à méandrer, qui est rejoint par de nombreux affluents intermittents, tant en rive droite qu'en rive gauche, et également tous les fleuves côtiers de la côte Vermeille, donc la Massanne, la Ribérette, le Ribéral, qui constituent tous ces petits fleuves côtiers au fonctionnement très atypique, mais qui présentent une biodiversité particulièrement remarquable. Donc, au niveau fluvial et ambiance fluviale, on retrouve bien ces contrastes sur les affluents de la partie amont qui sont extrêmement torrentiels. Vous pouvez voir sur les photographies que la granulométrie, la blocométrie est très importante sur ces cours d'eau. Les capacités de charriage et de transport solide sont très très marquées. Sur la partie plus intermédiaire, les affluents ont tendance à présenter des assecs parfois importants et longs dans l'année, mais ils ont également une richesse patrimoniale très importante, avec par exemple sur le Morellas des galeries d'aulnes pyrénéo-catalanes extrêmement bien conservées. Et donc les secteurs plus littoraux avec des fleuves côtiers qui sont effectivement très anthropisés, très artificialisés et sur lesquels, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, la biodiversité est à reconquérir complètement puisqu'il y a eu une artificialisation extrêmement forte de ces secteurs qui a malheureusement anéanti énormément les potentialités naturelles de ces cours d'eau. Pour les essences que l'on retrouve sur ces cours d'eau, on a bien, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que c'est quelque chose que vous maîtrisez tous. Donc c'est bien entendu les essences traditionnelles de Ripisylve, hein, avec tout ce qui est Alnus, Fraxinus, Salix, Populus, voilà, tous ces arbres qui font la richesse et l'intérêt des cours d'eau. Et puis effectivement différentes strates, les arbres, les arbustes, et puis quand même des plantes méditerranéennes bien implantées dans les ripisylves. Je citerai en particulier le tamaris, Gallica et Africana, qui est protégé, ainsi que le gâtillier, qui est extrêmement présent sur la côte Vermeille et qui là également est une espèce protégée au niveau national. Au niveau des plantes, nous avons tout un cortège également qui est caractéristique des ambiances fluviales et des milieux alluviaux, avec les célèbres carex, massettes, souchets, et puis bien entendu les hydrophiles traditionnels. Et là, je mentionnerai plus particulièrement les herbiers de renoncule aquatique, qui là également constituent un habitat protégé au niveau de la directive Habitat Natura 2000. Au niveau des espèces, nous avons quelques espèces emblématiques qu'il convient effectivement de préserver tant au niveau de l'espèce animale en elle-même que de son habitat, notamment le guépier d'Europe qui est présent, le procte des Pyrénées, le desmond et également une des rares populations d'émis de lépreuse en France. Population qui d'ailleurs est en progression puisque quelques individus au départ composaient cette population et qu'actuellement les conditions de restauration mises en place sur le bassin versant ont permis le développement de cette population. Il en va de même pour la loutre, et là nous devons remercier nos collègues catalans, puisque dans les années 70, la loutre avait complètement disparu en France, et la réintroduction sur le secteur de Catalogne a permis l'arrivée d'un couple, l'arrivée d'un couple sur le bassin versant du Tech par la Mougue, et ensuite via le Saint-Laurent jusque dans le Tech. Et aujourd'hui, la loutre fait désormais le circuit complet entre la mer et la montagne, puisqu'ensuite elle repart par la mer et via le cap de Creus jusqu'à l'embouchure du Ter. Donc nous avons désormais un circuit touristique de la loutre à travers nos deux fleuves Tech et Ter. Donc l'ensemble de ces espèces extrêmement patrimoniales est malheureusement extrêmement vulnérable, parce que ce sont des espèces qui sont concurrencées par des espèces invasives introduites. Je soulignerai par rapport à ce qui a été dit précédemment que pour nous c'est également un facteur très important de perte de biodiversité, puisque malheureusement ces plantes pionnières, que ce soit l'oponce ou les lentes ou même encore la canne de Provence, on y revient, sont extrêmement monospécifiques et anéantissent les écosystèmes fluviaux de façon extrêmement rapide et de façon très, très importante, avec la disparition des espèces locales. Et une des actions de notre structure est de reconstituer les écosystèmes fluviaux en luttant contre ces plantes ou ces espèces invasives. Parmi les espèces invasives, on a mis en avant le ragondin, qui effectivement est une problématique pour nous, puisqu'il est sur la même niche écologique que la loutre, et que par ailleurs, c'est un déstabilisateur de berge, on va dire, c'est-à-dire que malheureusement, par rapport aux protections latérales en termes d'ouvrages hydrauliques qui ont été mis en place sur nos cours d'eau, il déstabilise ces ouvrages, et en période de crue, ça peut générer une vulnérabilité des activités et des populations qui se trouvent à l'arrière de ces protections. Malgré tout, la richesse faunistique et floristique de la vallée du Tech a justifié de son classement au titre de Natura 2000 sur la totalité de son linéaire. La partie amont est couverte par le site des Conques de la Preste avec une dominante montagnarde. La partie aval embouchure du Tech est également incluse dans un site Natura 2000 et dans une réserve naturelle. Et tout le fleuve sur tout son cours est également classé au titre de la directive Habitat, donc notamment pour les aulnaies pyrénéo-catalanes dont je parlais tout à l'heure, mais également les saulaies arbustives méditerranéennes, les lits de gravier méditerranéens. Et donc le rôle du syndicat est de travailler en concertation une politique de l'eau qui permette effectivement de satisfaire aux usages et aux enjeux sécuritaires sur le territoire, tout en préservant et en développant la biodiversité. Donc, en résumé sur l'aspect géographique, il faut insister sur le fait que le territoire Tech Albert est un territoire de contraste, que nous y rencontrons une pluralité de problématiques. J'ai insisté sur la prévention des risques. Il faut savoir qu'effectivement, tout comme la Catalogne Sud, le Tech a été énormément touché par l'AIGAT d'octobre 1940. Qui est encore bien dans les mémoires, donc une très forte vulnérabilité aux inondations et à la submersion marine. La préservation des ressources, avec notamment la problématique de l'approvisionnement en eau, et également ces aspects relatifs à la biodiversité. Tous ces objectifs sont parfois difficiles à mettre en œuvre sans que l'un porte atteinte à l'autre. Et donc nous essayons de mettre en place une gestion intégrée qui permette de répondre à ces différents enjeux de façon vraiment la plus raisonnée et avec le meilleur compromis possible. Et donc nous travaillons avec les différents organismes locaux qui interviennent dans cette gestion. Donc c'est bien entendu la nécessité de cette approche globale de la gestion des cours d'eau que l'on souhaitait valoriser aujourd'hui dans cette intervention, sachant que bien entendu celle-ci se fait dans le cadre et dans le respect de la charte Natura 2000 qui couvre notre territoire. Donc pour revenir plus spécifiquement aux ripisives, nous portons une attention toute particulière au respect des différentes fonctions de celles-ci, puisqu'effectivement les forêts alluviales comportent différentes fonctions. certaines étant plus liées à de l'hydraulique, comme par exemple le... Comme par exemple tout ce qui relève de la stabilité des berges. Donc tout ce qui relève de la stabilité des berges et donc de la prévention et des impacts des ripisylves sur les crues, notamment par la formation d'embâcles. Tout ce qui marque effectivement dans ces forêts riveraines la transition entre l'écosystème fluvial et la partie terrestre. Bien entendu, l'aspect auto-épuratoire des cours d'eau, puisque nous avons la chance sur le TEC d'avoir une capacité auto-épuratoire extrêmement développée, qui nous permet largement de compenser les pollutions résiduelles, notamment sur l'assainissement. Donc une eau de bonne qualité, même s'il convient malgré tout d'être prudent dans la gestion. La diversification des habitats piscicoles, la limitation des pollutions par le ruissellement. Donc notre rôle dans la gestion des ripisylves est d'intégrer bien entendu toutes ces fonctions et de faire en sorte de les respecter au mieux quand on met en place des travaux de gestion. Quelques illustrations sur des aspects quelque peu ambivalents. Les ripisylves, par exemple, ces forêts alluviales, sont composées de nombreux boisements, pour certains vivants, pour d'autres malades, pour d'autres morts, susceptibles d'être mobilisés en période de crue. Et donc ces ripisylves peuvent être un facteur aggravant des inondations sur des secteurs où il y a des enjeux, des populations et des habitations, où elles peuvent générer des embâcles qui sont extrêmement destructeurs, avec des phénomènes de vagues. Et par ailleurs, sur des secteurs où il n'y a pas d'enjeu, il faut encourager le maintien de ces ripisylves qui ont un rôle de filtre, un rôle de peigne qui justement permet de ralentir les écoulements et de retenir les flottants qui viennent de l'amont. Donc une des difficultés quand on met en place une gestion des ripisylves, c'est de bien intégrer cette ambivalence de leurs fonctions. Bien entendu, les ripisylves ont un rôle à jouer sur l'auto-épuration. C'est quelque chose sur lequel on compte beaucoup au niveau du TEC, puisque nous avons la chance, comme je vous le disais, d'avoir un cours d'eau qui présente une très bonne qualité. Les principales atteintes à la qualité sont davantage liées à des fonctionnements hydrogéomorphologiques défaillants. Défaillants pourquoi ? Parce que le TEC a été extrêmement exploité. De nombreuses extractions de granulats sont intervenues jusqu'aux années 70-80 et les volumes extraits ont complètement déstabilisé le profil en long du cours d'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on subit une érosion régressive assez importante qui a nécessité la mise en place de seuils, sauf que ces seuils aujourd'hui sont des contraintes pour la continuité physique et écologique. Et on a également tout un tas d'usages qui sont affectés par cette érosion régressive, notamment des ponts qui se déstabilisent, des ouvrages de protection latérale comme des digues qui ont tendance à s'affaisser, des captages qui ne sont plus alimentés par la nappe alluviale qui devient un émissaire une alimentation du cours d'eau. Donc une gestion également qui doit s'adapter à cette contrainte hydrogéomorphologique et une notion de gestion du transport sédimentaire également très très marquée. Donc je vais laisser la place à mon collègue qui va vous expliquer de façon beaucoup plus technique le type d'intervention que nous réalisons dans le cadre que je vous ai posé précédemment.
Donc, comme Isabelle vous l'a dit, au niveau du syndicat du TEC, on essaie de concilier des enjeux liés aux inondations et des enjeux liés à la préservation des habitats et des espèces, ce qui est parfois pas évident. Pour faire en sorte de concilier ces deux objectifs, on met en place des plans de gestion qui sectorisent en fait nos interventions. Sur certains secteurs, on ne va pas du tout intervenir, on ne fait rien. Et sur d'autres secteurs, on va avoir des interventions plus lourdes pour répondre, par exemple, à un objectif de gestion des crues. Donc c'est l'objectif de nos plans de gestion de la végétation et des sédiments. On a distingué la gestion sédimentaire et la gestion des sédiments, la gestion physique, bien sûr, il y a une interrelation entre les deux. Donc une illustration, donc tous ces plans de gestion sont bien sûr répertoriés et sont bien sûr intégrés dans des SIG. Et là, on a en fait les différentes étapes de l'élaboration des plans de gestion. La première étape est un diagnostic de terrain, c'est-à-dire qu'on va parcourir concrètement sur le terrain l'ensemble des cours d'eau pour noter tous les problèmes qu'on va rencontrer sur le cours d'eau. Ensuite, la deuxième étape est une étape plutôt de diagnostic, où on va se poser la question de ce qu'on va devoir faire en fonction des enjeux qu'on a sur certains secteurs. Et la troisième étape est la définition de ces objectifs. La quatrième étape n'est qu'un chiffrage et qu'une organisation en fait, des interventions. Donc, au niveau des travaux du syndicat du TEC, on a différents types d'interventions. On va avoir des interventions qui vont être parfois très légères. On va faire de l'entretien, voire rien du tout, comme je disais. Et on va avoir des interventions beaucoup plus lourdes. Ces interventions, en fait, on les réalise donc sur la gestion de la végétation, mais aussi des sédiments. On va intégrer dans la gestion de la végétation la lutte contre les plantes invasives. On fait aussi de l'assistance pour pas mal de maîtres d'ouvrage locaux, car nous ne sommes pas seuls à intervenir sur le territoire. Il y a aussi des associations de riverains ou des communes qui peuvent intervenir. Mais elles doivent passer par le syndicat pour pouvoir faire les travaux. Au niveau des modalités d'intervention, la loi française est un petit peu compliquée. On est uniquement sur des terrains privés, avec parfois sur un kilomètre plus de 30 propriétaires. Donc ça fait qu'on a des toutes petites parcelles. Et pour pouvoir intervenir, on doit avoir l'accord de l'ensemble des propriétaires. Donc ça déjà, c'est un prérequis qui est très compliqué à mettre en œuvre. On peut être aidé grâce à des outils réglementaires, les déclarations d'intérêt général, qui permettent à notre organisme public d'intervenir sur des terrains privés. Ensuite, il y a toutes les démarches techniques qu'on doit mettre en œuvre pour arriver jusqu'à la réalisation des chantiers. Donc là, maintenant, on va vous montrer quelques exemples de chantiers. Donc bien vous mettre dans l'esprit qu'on ne fait pas uniquement des travaux liés à l'amélioration écologique des milieux. On a aussi des enjeux liés au risque d'inondation. Donc un premier exemple de chantier, où là en fait on a un cours d'eau, comme vous disiez Isabelle, qui est très dynamique avec des problématiques de crue. Et donc dans les traversées urbaines, dans les traversées de villes, quand on a des ponts, des passages à gué, il y a une nécessité d'intervention. Donc du coup on va faire des travaux sélectifs, où on va enlever uniquement les éléments qui pourraient éventuellement générer des barrages, des embâcles sur les ponts et derrière avoir des problèmes au niveau des inondations. On va en profiter aussi, selon les endroits, pour réouvrir des milieux qui nous paraissent intéressants. Donc là, c'est l'exemple, en bas à droite, de la réouverture d'une annexe hydraulique, d'un bras mort, qui est très important pour tout ce qui est grenouilles, batraciens, granotes et autres choses. Et donc ce genre de secteur-là, on va essayer de les réouvrir, en profiter d'avoir une opération de gestion liée aux inondations, pour quand même réouvrir des petits milieux qui nous paraissent intéressants. Donc là, encore un deuxième chantier plutôt de gestion de la forêt de berge, où là, clairement, on est aussi dans un secteur où on a des enjeux humains, avec des ponts, des traversées urbaines, et où on doit en fait intervenir pour enlever une partie de la végétation qui risquerait en fait de, en période de crue, créer des problèmes au niveau des ouvrages. Vous voyez quand même qu'on intervient dans ces secteurs-là de façon relativement douce et surtout avec des moyens adaptés. On ne va pas envoyer ici des engins, des bulldozers, etc. Là, c'est uniquement des travaux manuels, avec des cahiers des charges très stricts. L'entreprise doit utiliser de l'huile pour les tronçonneuses biodégradables. Les périodes d'intervention sont calées pour éviter les périodes de nidification des oiseaux, pour éviter les problématiques de destruction des tortues, s'il y en a, de la période de reproduction du dessement, etc. Donc on travaille sur des calendriers qui sont très précis pour éviter au maximum l'impact de nos travaux, pour limiter l'impact de nos travaux. Alors maintenant, des travaux plus lourds. Donc là, sur ce chantier-là, par contre, vous voyez, c'est des travaux plus imposants qui concernent en fait la gestion du transport solide. Isabelle vous l'a dit, pendant les années 70-80, il y a eu beaucoup d'extraction de granulats dans le teck. Le teck s'est incisé et creuse maintenant dans le substratum, dans l'argile. Et il existe des atterrissements de sable et de gravier qui se retrouvent complètement perchés au-dessus du cours d'eau. Et il faut des crues vraiment très importantes pour les remobiliser. Nous avons identifié que ces atterrissements pouvaient être gérés et favoriser en fait la redynamisation des habitats. Et du coup venir en fait compenser les extractions de granulats très importantes qui ont été réalisées. Donc c'est les champs de patates là, que vous voyez là, qu'on a fait. Et en période de crue, l'eau vient récupérer ces matériaux et vient alimenter des habitats qui sont en dessous, qui sont à l'aval, Mesbach, et qui sont en fait dégradés. Bien sûr, sur tous les chantiers, une part importante du marché, du coût du chantier, est affectée à l'enlèvement de tous les déchets qu'on va rencontrer sur le cours d'eau. C'est à peu près, sur chaque chantier, 10% du montant du chantier pour l'enlèvement des déchets. Donc un exemple de gestion de la canne de Provence, une plante invasive. Alors, on vous en a mis deux. Un exemple de ce qui se fait couramment, ce qui se faisait couramment, qui sont des chantiers en fait qui ne coûtent pas très cher. Là, on broie la canne. Le coût est de 58 centimes d'euro per mètre quadrat. Je m'en bâche. Et cet entretien est réalisé tous les 3 ans, donc très régulièrement, parce que la canne, bien sûr, ça ne la détruit pas du tout. Et maintenant, on essaye de faire d'autres types de gestion qui sont plus durables, mais qui coûtent beaucoup plus cher. Là, ces travaux, on est à peu près à 7 euros per mètre quadrat. Mais on a des résultats qui sont plus durables. On va réussir à éliminer la canne de Provence et reconstituer des habitats qui sont les habitats originels qu'on pouvait rencontrer sur le TEC. En utilisant pour ça des partenariats avec la pépinière départementale pour utiliser vraiment des arbres pour replanter qui sont issus de graines prélevées sur le TEC, pour conserver le patrimoine génétique des arbres du bassin versant du TEC. Mais ce type de travaux, ce n'est pas évident à faire passer au niveau des élus, au niveau des maires, etc. Parce que c'est très cher. Et l'objectif est vraiment là, pour le coup, un objectif lié à l'environnement, à l'habitat. Et les élus, souvent, sont plutôt intéressés par des logiques liées au risque d'inondation. Donc, ce n'est pas évident en tant que message à faire passer. On a fait des relevés floristiques sur les massifs où on n'a que de la canne de Provence. On y a uniquement cañas. Tenim 4 espèces de flores. Il expresse un nombre unique important. Un an d'espresse, tenim 50 espèces de flore. Un an d'espresse, uniquement. Es flore commune, però és una amélioration de la diversité. On a aussi d'autres plantes invasives, comme le buddleia ou la renouée du Japon. Fallopia. La fallopia est très, très, très embêtante. Et c'est très compliqué à gérer. Donc j'espère que vous n'en aurez jamais en Catalogne Sud. Pour l'instant, je crois qu'elle n'est pas encore arrivée. Mais celle-là, attention. Donc à l'heure actuelle, on est sur des protocoles expérimentaux de gestion. On n'a pas encore trouvé la recette miracle pour éviter d'avoir ces plantes invasives. Enfin, on essaye de promouvoir d'autres techniques de gestion des érosions, d'autres techniques de gestion des berges. Traditionnellement, lorsqu'il y avait une érosion de berges, on mettait des rochers, du béton, et hop, voilà, on s'en occupait plus. Maintenant, on essaye de promouvoir d'autres techniques qui valorisent en fait le végétal, le génie végétal. Et on a fait comme ça plusieurs chantiers expérimentaux pour en fait démontrer aux élus, aux décideurs, que ça marche et que c'est intéressant et que ça coûte moins cher en plus. C'est chez nous, dans le sud de la France, très très peu utilisé. Dans le nord de la France, ils ont vraiment l'habitude d'utiliser ces techniques-là. Dans les secteurs méditerranéens, en tout cas français, c'est des techniques qui sont relativement novatrices. Donc on a tout un travail de sensibilisation à faire pour essayer de convaincre de l'intérêt de ces techniques-là. Enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, sur chaque chantier, on a beaucoup de dépôts sauvages. Donc on fait systématiquement l'enlèvement de ces dépôts sauvages, mais aussi en partenariat avec les propriétaires privés, on empêche carrément l'accès à certaines zones pour éviter en fait que des chemins soient créés et que l'on ait en fait des dépôts sauvages comme ça qui se multiplient. Donc ça fait partie aussi de l'animation qu'on fait sur chaque chantier, d'essayer de convaincre certains propriétaires de fermer certains chemins pour éviter cette multiplication de déchets qui bien sûr provoque une pollution mais aussi génère un risque en termes d'incendie et de pollution des nappes. Voilà. Donc pour terminer, une petite synthèse des difficultés et limites que nous rencontrons, qu'on va faire peut-être à deux voix avec Isabelle. Donc, la première des choses, c'est qu'on est un petit peu embêté en France parce que l'entretien des berges est normalement de la responsabilité du riverain. Il y a un article du Code de l'environnement qui oblige normalement les riverains à faire cet entretien. Or, personne ne le fait. Et pire, certains jettent des déchets, entretiennent très très mal leur rivière. Donc du coup, ça c'est compliqué d'essayer d'amener les riverains, de faire de la communication, de la sensibilisation pour amener ces propriétaires à mieux gérer leurs berges de cours d'eau. Lorsque c'est pas possible, eh bien, il faut que ce soit la force publique qui prenne le relais et qui le fasse le mieux possible. On fait un chacun ? Ouais ? Bon. Ensuite, nous avons des problèmes de sémantique au niveau des textes. Ça concerne vraiment de la loi, de la réglementation française. Donc je vais passer rapidement là-dessus. Quelque chose qu'il faut absolument faire, c'est changer les mentalités, essayer d'amener les gens à penser gestion concertée et non pas uniquement rester soit hydraulique, soit totalement médi-ambiante. Essayer d'avoir des croisements entre les deux problématiques. Parfois, on a des problèmes aussi de statut dans le droit français qui est très compliqué. On a des plantes qui sont protégées alors qu'elles ne sont pas menacées et à côté des enjeux très forts par rapport au risque d'inondation. Et donc souvent, on arrive à des points de conflit qui sont très difficiles à régler. Ensuite, essayer d'avoir toujours la même doctrine pour voir à long terme Souvent, on nous demande de régler les problèmes sur une durée de 5 ans. C'est le mandat des élus, c'est le mandat des maires, 5 ans. Donc c'est trop court. On aimerait avoir un petit peu plus de temps pour travailler sur la gestion des cours d'eau. Et puis, surtout, le nerf de la guerre, c'est avoir un petit peu plus de moyens financiers pour faire des travaux de qualité et des travaux qui soient durables. Voilà. Donc là, c'était une présentation surtout sur la gestion des ripisylves et des sédiments. Sachez aussi que le syndicat du TEC œuvre pour tout ce qui est continuité écologique, parce que tenim pas un grand embalse, pero tenim molt petites rascloses, i tenim de fer algunes obres sobre aquesta rasclosa perquè les anguilles i tot això pujar dins els cursos.
Oui, en fait, j'ai deux questions. Est-ce qu'il y a la possibilité, il y a la problématique que ce sont les propriétaires privés qui ont les terrains qui vont jusqu'à la rivière. Mais donc, est-ce qu'il y a des essais d'identifier peut-être des terrains qui sont particulièrement intéressants pour la biodiversité, où on essaie de faire des contrats, des accords avec les propriétaires pour avoir peut-être des petites, je sais pas, des sentiers éducatifs, quelque chose comme ça, qui en même temps pourraient peut-être aussi conscientiser un peu plus les gens locaux, je sais pas. Est-ce qu'il y a des essais comme ça? En même temps, ça pourrait aussi faire des revenus. Ouais. Je rêve. Parce que bon, c'est quand même spectaculaire comme paysage. Et biodiversité, ce que vous avez su récupérer. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a aussi une certaine pression, parce que bon, moi je suis juriste, donc ça me fascine, les problèmes juridiques, tout ça. Mais est-ce qu'il y a peut-être aussi là un genre de lobbying politique d'améliorer justement la législation, parce que bon, c'est des choses qui, je m'imagine, la France est très centralisée, donc probablement, ça vient de Paris.
Oui.
C'est toujours ça.
Ou de Bruxelles aussi, une fois.
mais est-ce qu'il y a peut-être là des initiatives de régler ça? Bon, c'est deux questions. Ouais.
Alors, pour la première question, bien sûr, on essaye d'identifier des propriétés sur lesquelles on a des gros enjeux environnementaux. Et on essaye, dans la mesure du possible, soit de proposer aux propriétaires, via aussi Natura 2000 et les chartes Natura 2000, un certain mode de gestion qui permette de favoriser cette biodiversité, soit en effet, là, carrément, la maîtrise foncière par soit des associations de protection de l'environnement, soit par le public, donc les communes ou leurs groupements. Donc là, on a certaines opportunités liées par exemple à des mesures compensatoires liées à la construction de grosses infrastructures. Donc nous on est traversé, vu que le TEC coule ouest-est, on est traversé par toutes les infrastructures qui vont de la France à l'Espagne. Donc le train, les autoroutes, etc. À chaque fois qu'une grosse infrastructure comme ça traverse le TEC, ils sont obligés d'avoir une analyse de l'impact sur la rivière et du coup de proposer des mesures compensatoires. Et ces mesures compensatoires peuvent être, par exemple, l'achat de terrains qui sont très intéressants, où on a de la Tortuga de Rierol, et du coup, en fait, avoir une maîtrise de ces zones-là. Voilà. C'est pas facile parce qu'en France, les gens sont assez... Voilà. Le terrain, c'est à eux, et même si ça vaut rien, ils veulent le garder. Voilà. Mais on essaye progressivement de travailler là-dessus. Après, sur la problématique du lobbying politique...
En matière de droit, malheureusement, c'est très très difficile. Ne serait-ce que déjà au niveau local, passer sur le statut de propriété privée du Code civil, C'est très difficile à faire passer auprès des propriétaires riverains eux-mêmes qui sont défaillants dans l'exercice de leurs obligations, mais qui par ailleurs parfois nous refusent l'autorisation de pénétrer sur leurs parcelles. Donc effectivement, il y a eu des amendements de la loi pour qu'une servitude soit mise en place. Mais quelque part, plutôt que de faire exercer d'office l'entretien des cours d'eau, on préfère développer un système d'assistanat via des structures de gestion qui utilisent des fonds publics pour se substituer à des obligations privées. Donc il n'y a pas vraiment de réflexion qui permette de faire avancer concrètement cette responsabilisation de chaque usager et de chaque riverain d'un cours d'eau. Après, sur les structures, les secteurs où il y a une structuration comme la nôtre, même si celle-ci n'a pas un label reconnu nationalement, nous sommes un syndicat intercommunal avec une reconnaissance administrative, mais nous ne sommes pas, par exemple, un établissement public territorial de bassin qui, là, a une écoute beaucoup plus prononcée au niveau du ministère, mais qui concerne essentiellement les grands fleuves. On a un territoire trop petit pour avoir cette structuration, et donc on a beaucoup de mal à faire remonter ces besoins du territoire au niveau des ministères, voire de l'Europe. Par contre, on a un soutien très important de l'Agence de l'eau, puisqu'en fait, c'est un partenaire technique, juridique et financier. C'est un organisme sous tutelle de l'État qui intervient par bassin hydrogéographique. Nous sommes sur le bassin Rhône-Méditerranée et Corse. Et par ce biais, effectivement, petit à petit, sur des secteurs géographiques cohérents où on rencontre les mêmes problématiques, on arrive à faire remonter via les comités de bassin certaines choses au niveau des ministères. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'énergie pour finalement assez peu de résultats.